RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Avez-vous déjà entendu parler d'éco-anxiété ? Ce matin dans Je pense donc j'agis, on va se demander ce qu'est précisément cette angoisse très présente aujourd'hui dans notre société et donc dans le reflet de la société que sont les médias. À partir de 10h, nous verrons comment les Scouts et Guides de France, avec qui nous sommes partenaires pendant 2 heures, proposent aux jeunes l'action concrète comme moyen pour dépasser l'éco-anxiété ou en tout cas la rendre supportable. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vivez-vous vous-même cette forme nouvelle de souffrance et quelles en sont dans votre cas les manifestations concrètes? Peut-être la voyez-vous chez vos enfants, petits-enfants, amis? Venez nous raconter. Dites-nous aussi quelles sont selon vous les pistes pour y faire face. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Alors pourquoi l'éco-anxiété ce matin ?
Parce que comme vous l'avez dit, il nous semble que c'est un phénomène très présent dans notre société. On en parle beaucoup ces dernières années, mais sans toujours définir de quoi il s'agit. D'ailleurs, le mot en France est entré dans le dictionnaire seulement en 2023. Voici la définition qu'en donne le Robert. Anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. La définition du Larousse est un peu plus étoffée. Forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face aux problématiques environnementales contemporaines. Dérèglement climatique, destruction des écosystèmes, multiplication des catastrophes naturelles, etc. Cette peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible touche surtout les 18-24 ans, nous dit le Larousse. Mais cette définition, finalement, elle ne dit pas grand-chose des formes que prend cette angoisse, de sa dimension pathologique ou non, et de ce qu'il est possible de faire pour la traiter, l'apaiser ou vivre avec. Et donc, il nous a paru intéressant d'explorer cela ce matin. Et puis, il y a peut-être quelque chose de rassurant, finalement, dans l'éco-anxiété. Peut-être qu'elle nous dit qu'au fond, nous, les humains, n'avons pas complètement perdu la raison, puisque nous avons peur de la situation provoquée par l'urgence climatique. Alors que notre déficit d'action à la hauteur de l'enjeu pourrait laisser croire que nous sommes plus très sains d'esprit. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de plus intéressant avec l'éco-anxiété, c'est sans doute que c'est un moteur pour l'action. Alors vous allez l'illustrer, Melchior, à partir de 10h, mais on en parlera dès cette première partie d'émission.
Et pour en discuter dans cette première partie, comme vous l'avez dit Anne, on a le plaisir d'accueillir 3 invités ce matin.
Oui, et je salue d'abord Maxence Drosdenis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef scout à Bordeaux. On salue au passage d'ailleurs l'équipe d'RCF Bordeaux qui nous permet de faire ce duplex avec vous. Vous avez 23 ans, vous êtes responsable d'un groupe scout et guide de 11 à 14 ans. Et parmi ces jeunes, certaines et certains sont touchés par ce que vous avez identifié comme de l'éco-anxiété. Éco-anxiété que vous ressentez aussi d'ailleurs vous-même, vous nous en parlerez. Hélène Jalin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, spécialiste de l'éco-anxiété, conférencière. Vous préparez actuellement une thèse. Vous étudiez comment les modalités de régulation émotionnelle influencent nos réactions psychologiques face au dérèglement climatique. Et puis, vous accueillez dans votre cabinet des patients, notamment éco-anxieux, mais pas que. Et je salue enfin Hélène Colonna-Distria. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des programmes Transition Juste à l'association Make Sense, une organisation qui crée des outils et des programmes de mobilisation collective pour passer à l'action et construire une société inclusive et durable. Et puis vous animez des groupes de parole sur l'éco-anxiété, donc ça nous donnera un accès direct ou presque à des personnes qui la vivent.
Merci à tous les trois de nous accompagner jusqu'à 10h. Je rappelle que chez vous, vous avez la parole bien sûr pour participer, nous parler de l'éco-anxiété au 04 72 38 20 23.
Je vous propose qu'on commence tout simplement par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété. Alors avant d'en donner peut-être une définition théorique, je vous propose qu'on parte du terrain. Maxence Drosdenis, vous, qu'est-ce que vous voyez ou que vous disent les enfants, les jeunes que vous accompagnez? Je rappelle qu'ils et elles ont entre 11 et 14 ans. Vous dites que certains sont éco-anxieux. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce que vous avez observé chez eux?
Alors effectivement, la plupart des jeunes que j'encadre ne mettent pas sur ce qu'ils ressentent le mot éco-anxiété. Ils ont leur propre terme, leur propre façon de penser, leur propre façon de réagir vis-à-vis de ça. Et donc effectivement, c'est décrypter ce qu'ils peuvent nous dire et avoir le recul d'adulte pour mettre le mot éco-anxiété dessus. Mais effectivement, c'est des incompréhensions par rapport à l'avenir, des questionnements vis-à-vis de l'écologie, de la peur vis-à-vis du fait qu'on met en place des actions et que ça n'a pas forcément d'impact à leurs yeux.
Et sur l'anxiété, justement, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « je suis anxieux, je suis inquiet, j'ai peur », est-ce qu'il y a d'autres mots ?
C'est peut-être des mots un peu forts à cet âge-là, mais dans ces idées, c'est des questionnements, ils cherchent à comprendre pourquoi est-ce que les efforts qu'ils font, oui, les efforts qu'on cherche à mettre en place, ils comprennent vraiment pas. Ils ont cette problématique de pas mettre de termes dessus, de pas mettre ils font des actions et on n'a pas de conséquences directes à ça.
Mmh. On entend aussi dans ce que vous dites que justement on manque de mots pour en parler, non ?
C'est assez difficile, ne serait-ce que d'en discuter avec des adultes, c'est pas quelque chose de simple. Alors en discuter avec des enfants de 11 à 14 ans, je vous laisse deviner que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire.
Et alors vous, je crois que vous décrivez aussi comme éco-anxieux. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur la manière dont vous le vivez, dont ça se traduit ?
Effectivement, ça fait des années qu'on met en place beaucoup de choses, que ça passe par le tri, ça passe par forcément on roule plus mieux, on privilégie les mobilités douces, tout plein de choses qu'on peut faire au quotidien et que j'ai l'impression d'être assez peu nombreux à faire ces gestes et que certains polluent énormément et qu'on voit que on arrive plus ça avance, plus on voit les échéances, plus on voit les problématiques de climat et que on explose les records d'année en année, qu'il fait de plus en plus chaud, qu'on a de plus en plus de crises climatiques, etc. Donc effectivement, oui, je me définis comme éco-anxieux parce que il y a des gens qui font des choses, mais c'est qu'une petite minorité vis-à-vis de toute la problématique qui impacte chacun de nous.
Irène Colonna-Distria, dans ce que dit Maxence, on entend que finalement le plus important, c'est l'énorme décalage entre une lucidité extrême sur la situation et puis une action pas du tout à la hauteur. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous qualifieriez l'éco-anxiété que vous voyez par exemple chez les personnes des groupes de parole que vous avez pu accompagner ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment ce côté où on a tous les scientifiques qui nous disent qu'on va droit dans le mur, que le réchauffement n'a jamais été aussi rapide que ce qu'il est actuellement et qu'en fait, on va largement dépasser tous les seuils qu'on imaginait beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et qu'en face de ça, ben, on a voilà, une réaction politique qui n'est pas du tout à la hauteur. Là, moi, personnellement, suite aux résultats des élections européennes, qui sont quand même l'échelon... au niveau duquel on pouvait espérer qu'il y ait une vraie action, les résultats, moi, m'ont mis clairement dans un pic d'éco-anxiété. Enfin, je pense que là, on ne se rend pas compte de la catastrophe que c'est d'avoir une majorité d'extrême droite au niveau européen. Et surtout un recul des groupes écologistes au Parlement.
Justement, il y a chez les personnes éco-anxieuses une articulation entre ce qu'elles peuvent ressentir personnellement et puis la dimension plus collective et politique de la marche du monde, d'après ce que vous percevez ?
Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, en tout cas. C'est que les personnes, en fait, quand elles se rendent compte de ce qu'elles vivent, elles sont au centre de leur monde. Donc, en fait, elles vont vivre les effets du changement climatique, recevoir ces informations-là. Elles vont d'abord se dire, moi, à mon échelle, quelle est ma contribution à ça ? Quelle est ma responsabilité ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc voilà, on commence par des éco-gestes, on commence par se dire... Et on voit bien que ça ne suffit pas, en fait. Et c'est ce que les enfants aussi... voilà, je pense qu'ils essayaient de dire à Maxence, c'est... en fait, pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression de faire plein d'efforts et les choses ne changent pas ? Et donc nous, on essaie de les amener vers une réflexion plus collective pour dire, bah, effectivement, ça ne suffira pas, la stratégie des colibris. Et il va falloir une réflexion vraiment d'un changement systémique.
On va venir après sur la prise en charge ou la manière d'accompagner. Mais Hélène Jalin, vous, à la fois, Irène et Maxence, vous avez l'occasion de rencontrer dans votre cabinet des personnes éco-anxieuses. Et puis, vous avez une vision plus large à travers vos travaux de recherche. Alors, comment ce qu'ils disent résonne ? Et est-ce que vous pourriez quelque part, nous synthétiser un peu ce qu'est l'éco-anxiété à partir de ce qu'ils viennent de dire ?
En fait, moi, je suis éco-anxieuse moi-même, hein, c'est pour ça que je travaille sur ce sujet. Je suis solidaire avec mes deux camarades. En fait, oui, l'éco-anxiété, c'est la prise la prise de conscience émotionnelle et non pas juste théorique de la réalité du changement climatique. Et c'est ça qui divise les éco-anxieux des autres, c'est que à l'heure actuelle, tout le monde a connaissance, à moins de vivre dans une caverne, tout le monde a connaissance de la réalité du changement climatique et de la crise de la biodiversité. Mais il y a cette prise de conscience émotionnelle qui peut vraiment percuter les gens, qui peut faire vraiment un choc, une prise de conscience qui peut basculer comme du jour au lendemain à la lecture d'un article ou d'un livre, ou quand on voit une conférence sur Internet. Et là, on rentre dans quelque chose, une sphère un peu étrange dans laquelle tout le monde entier nous devient incompréhensible parce qu'on ne comprend pas la marche du monde. Et par rapport à ce que disait Irène Colonna, il y a vraiment cet aspect incontrôlable. Le fait qu'on n'ait aucune prise sur ce qui est en train de se passer, puisque à l'échelle individuelle, tout ce qu'on pourra faire, ce sera de toute façon infime, eh bien, fait que la plupart des gens ne veulent pas, inconsciemment, hein, avoir cette conscience émotionnelle de la crise et préfèrent rester dans leur petite vie quotidienne sans aller sur ces terrains-là, puisque dans la mesure où c'est incontrôlable, on ne peut pas y faire grand-chose et donc autant ne pas affronter le stress qui est associé à ça.
Et donc, ouais, ça, vous parlez de stress.
À comprendre pour les personnes éco-anxieuses. Ouais. Pardon.
Vous parlez de stress. En fait, en préparant l'émission, j'ai lu quelque part une expression qui était celle de stress pré-traumatique pour qualifier l'éco-anxiété. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous pouvez expliquer?
Alors, le stress pré-traumatique, c'est quelque chose qui a été observé en premier lieu chez des soldats qui allaient en Afghanistan. Donc, c'est pas du tout dans le cadre du changement climatique. Et en fait, c'était des personnes qui avaient été exposées à des images via des films, notamment de ce qui les attendait. Une fois qu'ils seraient sur les terrains de combat. Et donc, ils avaient des symptômes de stress post-traumatique, puisque c'est celui-là qui est étudié en général en psychologie, mais avant même d'être allé sur le terrain. Et les recherches montrent que les personnes qui avaient ce stress pré-traumatique, donc, étaient plus sensibles ou plus vulnérables à avoir un stress post-traumatique une fois arrivées sur le terrain de guerre. Et donc, il y a des psychologues qui ont associé ce terme au changement climatique, donc en postulant que certaines personnes souffraient de visions un peu dystopiques, hein, un peu catastrophiques de ce qui pourrait se passer dans le futur et se faisaient déjà un peu des films dans la tête qui pouvaient être assimilables à du stress post-traumatique, donc quelque chose de traumatisant, oui. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été réellement étayé dans la littérature scientifique. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves ni d'évidence sur ce sujet-là.
Parce que globalement, on est quand même plutôt au début de l'étude de tout ça. À vous entendre, bon, il y a une question qui se pose, c'est puisque des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres aussi sans doute commencent à accompagner l'éco-anxiété, on pourrait se dire c'est une maladie. Et en fait, à vous entendre, on a plutôt l'impression que les gens éco-anxieux sont finalement les plus connectés à la réalité. Donc, est-ce que c'est une pathologie ou est-ce qu'au contraire, c'est se placer dans une posture d'ignorance délibérée qui serait une pathologie?
Complètement. Enfin, moi, c'est vraiment la posture que je défends et c'est la posture que défendent la plupart des chercheurs qui travaillent désormais sur ce domaine-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes pathologiques d'éco-anxiété. Hein, ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais de plus en plus, on va vers un peu deux profils d'éco-anxieux. Les premiers seraient les personnes qui n'ont jamais souffert d'une forme pathologique d'anxiété, mais qui se percutent la réalité des choses et ça va vraiment les stresser, les inquiéter fortement parce que c'est quelque chose de très très difficile à avaler, hein, de façon générale. Et donc ils vont développer une forme de stress intense pendant quelques mois, le temps de un peu réguler, de faire un peu le deuil de la réalité d'avant, un peu, hein, c'est quand même ça qui se passe. Et ça va un peu rentrer dans la vie courante au bout de quelques mois, quelques années ou quelques semaines, hein, pour les personnes les mieux régulées. Et puis il y a le deuxième profil qui est les personnes qui ont déjà une base anxieuse qui est parfois pathologique. Et en fait, chez eux, l'éco-anxiété va venir se surajouter à cette base anxieuse et potentiellement la majorer, ce qui peut créer quelque chose de pathologique, mais qui peut être du coup pris en charge en psychothérapie comme le serait toute forme d'anxiété. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire développer à la personne des stratégies qui vont lui permettre de diminuer son niveau de stress et de mieux intégrer la réalité des choses.
Il est 9h17 dans Je pense donc j'agis, vous l'entendez ce matin, on parle de cette notion d'éco-anxiété avec nos invités. Vous avez la parole pour témoigner, si vous vivez cette forme nouvelle de souffrance, quelles en sont dans votre cas les manifestations concrètes? Peut-être aussi l'observez-vous chez vos enfants, vos petits-enfants, amis, venez nous raconter. Dites-nous aussi quelles sont selon vous les pistes pour y faire face. Vous témoignez au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et Anne, on continue toujours avec nos trois invités, Hélène Jalin, Irène Clona d'Istria et Maxence Drosdenis.
Oui, alors en préparant l'émission, j'ai un peu fait différentes recherches et je suis tombée sur une définition de chercheurs australiens et néo-zélandais qui citaient dans une étude de la Fondation Jean Jaurès en 2021, donc il y a 3 ans. Et à ce moment-là, ils présentaient l'éco-anxiété comme une inquiétude pour l'avenir. Alors Maxence Drosdenis, vous et puis les enfants de votre groupe, est-ce que c'est pour l'avenir qu'ils sont inquiets ?
Clairement, c'est pour le futur, parce qu'effectivement là, pour l'instant, à très court terme, les impacts on les voit, mais ils sont encore camouflables par ceux qui veulent se mettre des œillères. Mais effectivement, dans un futur plus ou moins proche, ça va être vachement plus difficile.
Et comment, justement, les enfants là, quand de 11 à 14 ans, quand ils parlent de l'avenir au regard de cette crise écologique, qu'est-ce qu'ils disent en fait, de quoi ils ont peur?
De manière plus ou moins définie, de manière plus ou moins tranchée, c'est changer ses habitudes, c'est bouger les choses, bouger les lignes, voir les espèces qui disparaissent. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'an dernier, c'est eux qui choisissent leur projet, et l'an dernier, ils ont eu envie d'aider cette faune et cette flore sur une île proche de chez nous, où ils ont eu cette volonté d'apporter leur soutien à ce genre de choses. C'est des choses que même sans notre regard d'adulte, ils comprennent, ils maîtrisent et qui les font souffrir.
Et qu'est-ce qui les fait souffrir en fait? Là, pour le coup, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'ils voient déjà, qu'ils connaissaient et qui n'est plus là. Enfin, comment ils appréhendent ça en fait? Par exemple, sur la faune là.
Ils voient qu'il y a des choses qui changent, le climat change, les choses que on les fait plus tout à fait comme avant. On a beaucoup d'interdictions de feu récemment vis-à-vis des scouts. On a ce genre de choses. Il y a des choses effectivement qui dès maintenant évoluent, et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. On fait des efforts pour limiter cet impact, et ça limite tellement peu. Les choses évoluent à une vitesse extrême, et nos habitudes vont devoir changer. C'est quelque chose qui pose problème. Ça paraît bête, mais un scout qui fait plus de feu, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre imaginaire collectif.
C'est un symbole intéressant pour montrer, c'est une petite chose, mais finalement qui dit quelque chose de l'ampleur de la réalité. Irène Colonna, pour vous, justement, même question, les personnes éco-anxieuses que vous connaissez, puis vous-même, qu'est-ce qui provoque l'éco-anxiété très concrètement? C'est quel phénomène que vous voyez? Quel changement?
Je pense que c'est clé, hein, ce que vous dites, c'est ce rapport au temps. Enfin, pour être un peu sain mentalement, il faut, je pense, avoir la possibilité de se projeter dans l'avenir, de savoir rien que quel jour on est, qu'est-ce qu'on va faire dans une semaine, dans 3 semaines, peut-être dans 3 ans. Et c'est ça qui est rendu très difficile, en fait, avec la crise climatique. C'est que, moi, je parle à titre personnel, j'ai 28 ans, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir vivre quand j'aurai 30, 35 ans. Est-ce que je pourrai avoir des enfants de manière sereine ou pas? Enfin, comment en fait on va assurer notre sécurité? C'est l'inconnu complet, en fait. C'est vraiment ces effets d'emballement qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Enfin, je veux dire, on a vécu déjà un Covid. Je pense qu'on voit l'ampleur des chocs qu'on va pouvoir subir. Et donc, comment se préparer à ça, en fait? Comment se projeter dans l'avenir face à ces cataclysmes?
Sur cette question du temps, Hélène Jalin, en fait, il y a des impacts. On a senti quand même dans les années récentes, peut-être depuis 2019 et encore plus les derniers étés, là, un impact maintenant est visible. Et il y a aussi toute une notion qui est dite parfois de personnes qui ont un sentiment de perte de leur environnement, perte des paysages qu'ils connaissaient à l'échelle d'une vie, perte par exemple dans les forêts de l'Est de la France, des choses qui existaient et qui, quelques années après, n'existent plus, et ça crée une angoisse. Et là-dessus, je crois qu'on met parfois le terme de solastalgie, c'est ça?
Oui, la solastalgie, c'est un terme qui a été créé par un philosophe à la base, Albrecht, Glenn Albrecht, dans les années 2000, pour décrire en fait la perte d'attachement au lieu qui découlait de l'ouverture de grandes mines à ciel ouvert, pardon, dans des secteurs d'Australie qui étaient habités par des populations autochtones et qui ne reconnaissaient plus leur territoire avec le bruit des mines et avec ces énormes cratères béants. Albrecht a travaillé sur le sentiment d'attachement au lieu. Et en fait, la solastalgie, c'est une forme de nostalgie sans exil. C'est un peu ce qu'on peut ressentir, la nostalgie du lieu, comment il était avant, et qui se fait petit à petit modifié par soit les feux de forêt, soit la sécheresse, soit encore le grignotage par l'urbanisation, qui fait disparaître une grande partie des lieux qui constituaient auparavant des lieux qui pouvaient nous faire du bien et qui était attaché à une partie de notre histoire. Donc la solastalgie, souvent confondue avec l'éco-anxiété, mais c'est pas du tout la même chose en fait.
Irène Colonna, on dit depuis le début qu'en fait, il y a celles et ceux qui sont éco-anxieux, et puis il y a celles et ceux qui veulent pas voir. Enfin, on a nommé ça comme ça, mais en tout cas qui semblent ne pas voir. Et en fait, d'après ce que vous observez, est-ce qu'il y a des profils en fait qui sont les personnes touchées par l'éco-anxiété en termes de genre, d'âge, peut-être de profils socioculturels? Qu'est-ce que vous observez?
Je pense que sur le fait d'employer ce terme-là, c'est quand même assez situé socialement. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui ont déjà réellement une capacité à se projeter dans l'avenir et donc qui ont déjà pas forcément des contraintes immédiates trop fortes en termes de voilà comment est-ce que je vais assurer ma survie un petit peu au jour le jour. Donc peut y avoir un petit peu ce décalage entre de niveaux sociaux et de capacité voilà d'action. Là-dessus d'ailleurs, moi j'aime bien parler de En fait, c'est un peu, on a un peu une vision de la fin du monde où on va devoir repenser complètement notre contrat social, la manière dont on vit. Et du coup, il y a aussi un écart entre les générations. Moi, la génération de mes parents, en fait, comment leur en vouloir? On leur a dit toute leur vie, voilà, tu vas avoir un job, gagner de l'argent, faire une famille et bien vivre. Et puis après, on leur dit, en fait, bah non, t'as monté tous les échelons et puis tu dois tout recommencer à zéro et t'avais tout faux et en plus, c'est ta faute. Donc c'est hyper violent aussi pour eux. Donc ça peut créer aussi une forme de déni, je pensais, de rejet, de dire, bah attendez, moi j'ai joué les règles du jeu et maintenant on me dit, c'était pas les bonnes règles. Donc il y a pour moi un peu ces deux écarts entre à la fois les différentes couches sociales de la société et les générations.
Même question, je ne sais pas, Maxime Droz-Denis, Hélène Jalin, est-ce que vous avez aussi des réponses complémentaires là-dessus? Maxime, Maxence?
Effectivement, là, par rapport aux forêts, ça me vient en tête, mais effectivement, on a une proportion à vivre dans la nature qui est importante, ça fait partie de nos piliers en tant que scout, et ça a beaucoup affecté mes jeunes, le feu des Landes. Qu'il y a eu il y a quelques proches de nous, et assez récemment. Donc effectivement, j'entends assez ce qu'a pu proposer Hélène. C'est quelque chose que je vois directement auprès de mes jeunes, que cette modification de nos habitudes, nos paysages, etc., c'est quelque chose que je peux voir avec des jeunes.
Hélène Jalin, sur la question des profils, qu'est-ce que vous diriez, vous?
Sur les profils d'éco-anxiété, sur cette question de la jeunesse et des personnes plus âgées, oui, j'entends souvent là que les jeunes sont plus éco-anxieux que les personnes plus âgées. En fait, c'est pas tellement vérifié hein, dans la littérature scientifique. Il y a effectivement des études qui montrent ça, et il y a d'autres qui montrent aucune corrélation entre le niveau d'éco-anxiété et l'âge. Ce que semble montrer une étude plus récente, là, une enquête qui vient d'être produite, c'est que il n'y a pas vraiment plus d'éco-anxiété jusqu'à 60 ans. Et effectivement, cette génération, on va dire 65 ans, 80 ans, elle est beaucoup moins concernée, bah, peut-être aussi parce qu'ils ont un horizon de vie qui est plus restreint et que du coup, ils vont moins se projeter dans quelque chose de dystopique. Et effectivement, et aussi, ils ont moins vécu avec la crise environnementale, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui refusent aussi de faire face à la réalité. Il y a beaucoup de déni chez les jeunes. On peut faire le lien aussi avec le vote extrême droite qui concerne beaucoup les jeunes aujourd'hui. En fait, dans la mesure où on leur propose pas de futur enviable, d'espoir et de manière de se projeter dans quelque chose qui peut leur qui peut les satisfaire. Mais parfois, le refuge des dénis est aussi facile, est plus facile. Et donc, il est aussi très, très présent chez les jeunes, malheureusement.
Bah peut-être là-dessus, puisque vous êtes jeunes, Maxence et Irène, en 30 secondes chacun, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous arrivez à vous projeter, ou est-ce que pour vous, le nœud, il est là, quoi, justement, Irène?
Oui, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure et je rejoins, je voulais pas du tout opposer les générations, au contraire. Moi, j'arrive à me projeter quand j'ai, par exemple, justement autour de moi, des personnes qui acceptent de remettre en question voilà, tout ce système de valeurs dans lequel dont on a hérité. Et ça peut être soit des jeunes de mon âge où on se dit, bah voilà, on va construire autre chose ensemble et c'est hyper enthousiasmant. Mais ça peut aussi être des personnes plus âgées, par exemple ma mère qui est hyper soutenante dans ces questions-là et qui comprend et qui du coup se remet aussi vachement en question par rapport à la manière dont elle vit et qui a et joué un changement. Donc je pense que voilà, par le lien social, on arrive à recréer un petit peu de la capacité de projection.
Maxence, vous, est-ce que vous arrivez à vous projeter et qu'est-ce qui vous y aide?
En quelques mots.
Se projeter, en toute honnêteté, c'est compliqué. Pour moi, on n'a pas du tout on voit pas on va pas assez loin dans notre façon de voir l'écologie, dans notre façon de voir cette éco-anxiété. Pour moi, actuellement, si on continue dans sur ce qui se passe actuel, si on ne change pas nos habitudes, je vois pas d'avenir. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette bigénéralité, cette génération qui n'a pas forcément d'impact parce qu'on a des jeunes qui effectivement...
On va continuer d'en parler dans un instant, on marque une petite pause, on accueillera Patrick au 04 72 38 20 23. Vous continuez de réagir et nous parler d'éco-anxiété dans le groupe Facebook Je Pense Donc J'Agis. À tout de suite.
Je Pense Donc J'Agis avec Melchior Gormand et Anne Kerléo. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je Pense Donc J'Agis. On s'intéresse à l'éco-anxiété ce matin avec notre partenaire les Scouts et Guides de France. Nos trois invités, Maxence Droz-Denis, chef scout à Bordeaux, vous avez 23 ans. Hélène Jalin, vous êtes psychologue, spécialiste de l'éco-anxiété et conférencière. Ainsi qu'Irène Colonna d'Istria, directrice des programmes Transition Juste à l'association Make Sense. Patrick, bonjour.
Bonjour Melchior, bonjour à tous vos invités. Une émission très intéressante, comme d'habitude, et là, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Notamment, je pensais à ce que disait la jeune psychologue sur les derniers résultats de l'écologie. C'est quand même terrifiant de voir qu'on ne prend pas conscience de ce qui se passe actuellement sur la planète. Quand on voit le pourcentage que fait ce parti, bon, il y a d'autres problèmes qui interviennent, mais enfin quand même, quoi, c'est quand même grave. Et donc c'était la première interpellation. Et puis je crois qu'on s'habitue aux images, les actualités qui tournent en rond, qui tournent en boucle, nous font voir des phénomènes donc climatiques catastrophiques, des incendies, des inondations, etc., etc. Ça passe très vite. Après on nous parle de foot. Donc je pense que au niveau de la conscientisation des phénomènes, on n'est pas au top au niveau des infos. Donc comment toucher les gens, c'est aussi un problème. Bon, voilà. Et puis la question qui se pose, c'est vrai. Bon, je connais des jeunes femmes qui se posent vraiment la question de savoir si elles vont avoir des enfants, tellement elles ont peur d'un avenir sombre et elles n'osent pas trop. Elles sont dans le questionnement. Vais-je avoir un enfant? Je me pose la question avec le monde qu'on nous propose. Quant à la disparition des paysages, c'est terrible. Moi aussi, moi j'en souffre et on peut en appeler d'anxiété. Tous les arbres qu'on coupe, les paysages changent. On tombe les arbres pour faire des autoroutes. Bon, on voit plus d'animaux. Enfin bon, bref, ça c'est.
Ben merci ça, c'est... Patrick.
Je vous en prie.
Merci d'avoir témoigné dans Je Pense Donc J'Agis. C'était intéressant. Je vais m'arrêter plutôt sur la première partie de votre témoignage à propos des élections européennes. Je me tourne vers vous, Hélène Jalin, quand on compare à 2019 et cette vague verte qui avait un peu surpris d'ailleurs, notamment en France avec la situation actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Hélène Jalin, d'après vous? Est-ce que les médias ont eu un impact de ce côté-là?
Les médias, je ne sais pas. Il y a une politique quand même en France qui a tendance à largement criminaliser certains mouvements militants écologistes et qui fait pas du tout du bien au mouvement parce que l'assimilation pour les personnes qui regardent un peu ça de loin des mouvements violents au parti écologiste, il peut se faire de façon automatique et ça ne fait pas du bien, c'est clairement au mouvement. Ça, c'est pour ce qui a trait à la France, qui est un des pays qui criminalise le plus en Europe. Il y a une enquête récente là-dessus qui le montre, qui le criminalise le plus les mouvements écologistes. À côté de ça, c'est quand même un mouvement assez généralisé. En fait, Bon, j'étudie ça, moi, sur les stratégies de régulation face au stress climatique, mais plus on va avoir une menace qui est forte et moins elle devient contrôlable à l'échelle de chacun, plus on a intérêt tous à se réfugier dans une sorte de déni. Et il y a certaines études qui sont un peu inquiétantes, qui montrent que en présentant des informations stressantes sur le changement climatique à des personnes, elles vont avoir tendance à davantage se positionner sur les extrêmes au niveau politique, et donc aller davantage voter pour des partis populistes ou au pire climato-sceptiques, hein, qui vont les rassurer sur le fait que le changement climatique n'existe pas. Et l'humain a cette particularité d'avoir une mémoire assez courte et il va s'habituer, comme vous le disiez, à des situations qui sont pourtant des situations de crise, mais en quelques années, ça devient un peu une routine, ces feux de forêt, ces ouragans un peu plus lointains. Mais c'est comme si ça faisait désormais partie de la vie quotidienne et on a la mémoire courte et on oublie, malheureusement.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, par exemple, puis dans ce que vous dites là, il y a une interpellation forte, par exemple pour nous les médias, hein, parce que du coup, comment on parle de tout ça ? Parce que ça provoque des choses. Irène Colonna, vous, à Make Sense, comment vous faites justement ? Alors, il y a des groupes de parole pour les personnes éco-anxieuses, je crois. Comment c'est venu ? Et puis plus globalement, comment vous essayez d'accompagner, de mettre des choses en face de cette éco-anxiété ?
Nous, en fait, on a des programmes de mobilisation citoyenne où, donc, en fait, on s'adresse aux personnes qui, justement, se posent des questions, voire peuvent ressentir de l'éco-anxiété, et on les met, en fait, dans des groupes, et on leur fait découvrir un petit peu le champ des possibles de ce qu'ils peuvent faire à leur échelle individuelle, mais aussi collective. Et ce programme, du coup, il est soutenu par Valérie Masson-Delmotte, qui est donc coprésidente d'un groupe du GIEC, et qui nous dit que, en fait, la prise de conscience climatique, c'est ultra difficile à porter seule, et que, du coup, pour recréer des émotions positives et se mettre en action, rejoindre un collectif et mener des actions concrètes, c'est ça qui fonctionne. Donc nous, c'est par là qu'on essaie de créer le changement, c'est par le collectif et par la mise en action. Après, il y a des personnes qui, à force de ressentir ces émotions, ne sont pas forcément aptes à se mettre en action dès maintenant et qui ont juste besoin de trouver des espaces d'écoute d'abord et de déposer un petit peu ce qu'elles ressentent. Et donc pour ça, on a créé avec l'association On est prêt des groupes de parole, et on a aussi fait en partenariat avec des réseaux de psychologues qui se spécialisent sur l'éco-anxiété, comme par exemple le RAFU, RAFUE. Et l'idée, voilà, de ces groupes, c'est vraiment déjà d'ouvrir cet espace, de lever le tabou de l'éco-anxiété, et de permettre aux gens de se connecter les uns aux autres sur ce ressenti-là, et ensuite de se reprojeter un petit peu dans l'avenir en faisant attention à comment est-ce que je répartis mon énergie, en fait. Quelle est mon énergie et comment je la répartis entre de la lutte, parce qu'il y a besoin, en fait, aujourd'hui, de se mettre en opposition avec toute la destruction du vivant qui est en marche, et tout ce qui est exploitation du vivant. Enfin, parce que tout part de là, hein. C'est un rapport au monde surplombant où on se permet d'exploiter la nature, les hommes, mais en particulier aussi les femmes, les corps de personnes racisées. Et donc, tout ça, c'est vraiment la racine du problème. Et c'est ça aussi que défend la police. Hein. Elle défend le status quo et l'ordre établi. Et du coup, elle déshumanise, hein, les personnes qui s'opposent à cet ordre établi. Donc moi, à titre personnel, j'ai déjà subi des violences policières. Je connais beaucoup de gens qui en ont subi. Et c'est vraiment très, très stressant de voir que quand on essaye de s'opposer à ça et à la destruction de notre monde, on se fait réprimer très très violemment. Mais pardon, pour revenir du coup à l'éco-anxiété, je suis désolée, hein, mais c'est parce que c'est des sujets qui sont importants on a besoin, en fait, de montrer qu'on est des gens qui réfléchissent. On n'est pas juste des terroristes, hein. On n'est vraiment pas du tout dans cette réflexion-là. On a envie de créer de la cohésion, de créer autre chose, d'un monde désirable, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui. Donc voilà, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de créer autre chose, avec grand plaisir. Et du coup, donc, dans ces espaces de parole, il y a toute cette dimension de la lutte, mais qui est vraiment très très énergivore. C'est vraiment difficile et violent d'aller lutter contre ce monde-là qui est très très puissant. Et il y a la construction. Il y a le fait aussi de se dire qu'est-ce qu'on crée à la place. Parce que quand on s'oppose, par exemple, à un pipeline comme celui de Total Energy en Ouganda qui s'appelle ICOP, à la fin, si on gagne, il n'y a juste pas de pipeline. Donc c'est super et la réserve de biodiversité est sauvée, mais qu'est-ce qu'on a construit, en fait? Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on peut, par exemple, créer des communautés, créer, je sais pas, des exploitations agricoles, créer d'autres modèles économiques, enfin voilà, aussi être dans une énergie créatrice et pas uniquement de lutte contre. Donc c'est ça un petit peu qu'on essaye d'amener les gens à identifier, eux, quelle est l'énergie dont ils disposent actuellement et comment est-ce qu'ils la répartissent entre la lutte et la construction.
Maxence Drozdeny, comment ce que décrit Irène résonne dans votre expérience de scout? Est-ce que c'est transposable? Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, comment vous faites face à l'éco-anxiété avec vos jeunes scouts et guides?
La méthode scout, elle passe par le jeu, beaucoup. Ça fait partie de nos méthodes. Et effectivement, pour moi, la meilleure manière de transitionner tout ça, c'est que ça vienne des jeunes. C'est que les jeunes soient éduqués, soient formés sur ces sujets, qui au fur et à mesure qui vont prendre de l'âge, que l'intégralité des personnes seront au courant de ces choses-là et on sera en capacité de bouger les lignes. Donc effectivement, ça fait partie des projets PEDA qu'on mène dans les différentes années et différents camps que j'ai pu faire récemment. Que ça passe par des temps de réflexion, ça passe par des temps de jeu avec de l'écologie dedans, ça passe par des veillées, ça passe... Le projet pédagogique sur l'écologie, ça va englober toutes les activités qu'on peut faire pendant l'année. Parce que imposer sans que les gens comprennent, ça ne me semble pas forcément la manière de faire. Il faut que les gens, les jeunes, les adultes, les gens qui vivent cette écologie soient au courant et comprennent pourquoi ils font ça, plutôt qu'on leur tape sur les doigts en leur disant fais comme ça sans qu'il y ait de réflexion derrière.
Donc. Et vivre ça, est-ce que pour vous, ça fait, vous personnellement, ça fait baisser le niveau d'anxiété?
Voir qu'à ma petite échelle, j'ai cette possibilité de faire grandir des jeunes, donc forcément la société dans son ensemble, je trouve que oui, c'est effectivement quelque chose où je me dis tout est peut-être pas perdu.
Hélène Jalin, finalement, on voit que dans l'éducation populaire, dans les nouveaux mouvements aussi comme Make Sense qui naissent, il y a plein de choses qui existent, qui se font. À partir de quand votre appui, l'appui des psychologues, des psychothérapeutes, devient nécessaire? Alors d'un côté pour accompagner toutes ces réalités-là, mais après, quand faut consulter en fait, à titre personnel, à votre avis?
Il faut consulter quand ça devient vraiment trop une souffrance pour soi. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut arriver par une espèce de choc un peu brutal. Moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Pendant quelques semaines, quelques mois, j'avais du mal à dormir. J'étais vraiment assez angoissée. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le deuil climatique, dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire que la personne qui est confrontée à ces réalités-là doit faire le deuil de sa vie d'avant, sa vie d'insouciance. Peut-être ses projections dans un futur qu'elle avait planifié de façon assez sereine doit faire aussi peut-être le deuil d'une vie basée sur la consommation, parce que quand on devient éco-anxieux, on culpabilise beaucoup plus lorsqu'on a des comportements qui sont pas respectueux de l'environnement, et donc il faut se projeter dans quelque chose de différent. Parfois on peut changer de valeur, on peut changer au niveau de l'identité, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut traverser et qui est vraiment pas simple à traverser, et là un psychologue peut aider à faire ça. Alors, Irène citait tout à l'heure le RAFU. Moi, j'appartiens au RAFU. Donc, c'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Et c'est des psys qui sont sensibilisés à ces questions-là. C'est vraiment important parce qu'il faut avoir... une personne éco-anxieuse qui va voir le psy et le psy lui dit qu'elle a un problème avec que sais-je, sa mère ou son enfance, etc. Alors qu'elle est éco-anxieuse, ça va forcément être problématique. Il va y avoir une incompréhension en fait qui va faire que la prise en charge ne pourra pas se faire. Donc c'est important d'avoir des psychologues qui sont formés à ces questions-là et qui sont eux-mêmes sensibilisés à ces questions-là pour pouvoir aider ces patients-là.
Vous avez employé le verbe traverser. Une fois qu'on a fait la traversée, alors j'imagine qu'elle peut être plus ou moins longue, ça dépend aussi comment on est accompagné, mais est-ce qu'à la fin, au milieu de ce marasme écologique qui demeure autour, quand on a soi-même fait une traversée, est-ce qu'il reste de la joie? Est-ce qu'on retrouve de la joie au bout?
Alors oui, justement, c'est un auteur qui s'appelle Picala qui a décrit cette phase de la traversée qui va déboucher sur une phase qui correspond un peu à vivre avec son éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins fait ce travail de deuil dont je parlais tout à l'heure, il est en tout cas bien avancé, et on a traversé un peu beaucoup d'émotions désagréables, et on va pouvoir s'ouvrir à quelques émotions qui sont plus agréables, comme par exemple l'espoir. En général, quand on est passé à l'action, et ben on va aller vers des actions qui vont nous faire du bien. Alors effectivement, le faire des actions en groupe, ça va nous faire du bien, parce qu'on va se sentir entouré de pairs qui pensent comme nous, et ça va nous aider à accepter de vivre avec ce quotidien-là. Le problème, c'est que la crise ne fait que s'accentuer. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à vivre avec son éco-anxiété, parce que malheureusement, l'éco-anxiété ne peut pas disparaître dans le contexte actuel. Mais donc, moi, j'encadre un groupe de parole, par exemple, qui s'appelle « Mieux vivre avec son éco-anxiété ». Je dis clairement à mes patients, je ne vous guérirai pas de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété va désormais faire partie de votre vie. Mais vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur vous-même en traversant cette phase un peu compliquée et en apprenant à vivre avec cette éco-anxiété et peut-être profiter davantage de l'instant présent. Reconfigurer des valeurs qui sont plus vers le aller vers les autres, se faire du bien au contact avec la nature, apprendre à déconsommer. Et quand on apprend à déconsommer, on retrouve beaucoup de joie en général. Et donc la vie peut être paradoxalement beaucoup plus agréable avec l'éco-anxiété.
Il est 9h45, enfin presque, dans une minute. Et ce matin, on continue de parler d'éco-anxiété avec nos trois invités et vos appels, vos témoignages au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Allons, on continue avec nos trois invités, Maxence Drosdenis, Hélène Jalin et Irène Colonna d'Istria.
Oui, trois intervenants, intervenantes qui, dès le début, nous ont dit qu'au-delà du fait qu'ils accompagnaient chacun d'une manière ou d'une autre des éco-anxieux et éco-anxieuses, eux-mêmes et elles-mêmes sont touchés par l'éco-anxiété. Alors, du coup, je voudrais vous demander à chacun, je sais pas, vous en êtes sûrement à des endroits différents dans votre histoire d'éco-anxieux, d'éco-anxieuse, mais est-ce que vous pouvez chacun nous raconter une chose qui dit qu'il y a de l'espoir, quoi? Quelque chose que cette traversée, finalement, vous a fait vivre de positif. Alors, je sais pas qui veut commencer, Irène Colonna.
Alors, c'est pas une question facile, mais moi, je dirais que c'est... Ça m'a permis d'accepter aussi d'avoir un rapport peut-être plus sensible au monde et en même temps je trouve ça passionnant. Enfin en fait c'est des enjeux que je trouve qui sont d'une complexité sans nom, mais du coup moi ça me plaît de me dire en fait on peut vraiment changer les choses et on peut faire mieux et on peut en fait la difficulté c'est qu'on a l'impression de perdre quelque chose, voilà, on parlait de tout ce à quoi on est attaché, notre contrat social aussi, voilà, c'était un peu le modèle qu'on nous promettait. Et maintenant, il faut tout réinventer. Et du coup, c'est aussi une liberté créatrice qui est folle. Et donc, moi, j'aime bien, il y a une autrice qui a écrit un essai qui est vraiment chouette, qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. En fait, je pense que, voilà, si on coule, autant couler en beauté et autant essayer de faire quelque chose de beau, en fait, de cette... Donc moi, ce qui me donne de l'énergie et de la joie au quotidien, c'est le fait d'être avec ces gens qui croient qu'on peut faire autrement et qui refusent de... Quand bien même l'extrême droite fait 40% aux européennes, quand bien même, voilà, là, on nous annonce peut-être jusqu'à 230 sièges RN à l'Assemblée nationale. Enfin, je sais pas si on se rend compte, quand même, de l'état de notre pays. Mais de se dire, en fait, on lâchera rien jusqu'au bout, quoi. On sera là et on se donne de la force.
Maxence Drosdenis, qu'est-ce qui vous, dans cette traversée, est source d'espérance, de joie ?
C'est tout bête, hein, mais les exemples qui viennent en tête après ce genre de questions, c'est quand nous, en tant qu'adultes, on a des oublis, des manques, des choses comme ça, que c'est des jeunes qui se posent la question. Dans mon cas, c'est déjà arrivé plusieurs fois d'oublier les poubelles de tri ou des choses comme ça, des trucs tout simples de la vie de tous les jours. Et que ce soit mes jeunes qui viennent me dire « Mais Maxence, je comprends pas, elle est où la poubelle de tri? Comment je fais pour trier? Comment je fais pour faire que les choses aillent mieux ?» Et je trouve que c'est beau. Ça donne moi, en tout cas, c'est des choses comme ça qui me donnent de l'espoir. Des toutes petites actions du quotidien, mais que je vois que ça marque réellement les jeunes que j'accompagne.
Hélène Jalin, pour vous, peut-être un exemple de fruit de cette traversée ?
Ce qui me vient là, c'est le fait de redécouvrir toute une partie de mon monde sensible à travers notamment l'éco-psychologie. J'ai fait un week-end du travail qui relie, c'est des pratiques en psychologie qui visent à reconnecter à la nature avec des méditations en nature, ce genre de choses. Et de découvrir à quel point ce monde naturel avec lequel on peut rentrer en connexion, c'est vraiment quelque chose qui m'a mis énormément de joie en moi. Voilà, cette reconnexion au vivant, ce respect du vivant et cette sensibilité émotionnelle que peut nous apporter aussi le vivant. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien personnellement.
Alors, moi, ce que j'entends aussi dans vos témoignages, c'est que vous êtes tous éco-anxieux-anxieuses et vous accompagnez d'autres éco-anxieux-anxieuses comme vous. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque aussi et comment vous faites pour avoir des forces, des ressources pour être accompagnées? Enfin, est-ce qu'il y a de quoi faire pour être soutenue, Irène Colonna, dans ce que vous avez à traverser là, en soutenant d'autres aussi?
Ben nous, il y a deux choses. C'est que déjà, les personnes éco-anxieuses, elles sont quand même potentiellement les plus susceptibles de passer à l'action parce qu'elles ont compris qu'il y avait un problème et qu'elles le rejettent pas. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant aujourd'hui et que le risque, c'est d'être dans un entre-soi. Et on le voit bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on perd, c'est qu'on est minoritaire et donc il faut se remettre en question. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'élargir aujourd'hui le mouvement en faveur de l'écologie et d'aller travailler notamment dans l'éducation populaire, avec des associations d'éducation populaire, pour ouvrir des espaces de parole qui n'existent pas aujourd'hui pour beaucoup de gens. Il y a des espaces militants dans lesquels, voilà, les personnes, à dire de ma sociologie urbaine, diplômées, jeunes, femmes, peuvent se retrouver complètement, mais il n'y a pas aujourd'hui d'autres espaces pour des jeunes qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux. Et donc c'est ce que j'essaie de créer avec le programme Transition Juste, justement pour des jeunes issus de milieux populaires qui puissent prendre leur place dans ce mouvement et venir ensuite se donner de la force. Mais du coup, juste pour terminer, ce que ça implique, c'est qu'il faut vraiment que l'écologie se mette au service aussi des priorités sociales de ces personnes et qu'on construise un autre discours sur l'écologie que juste le discours environnementaliste sur l'effondrement de la nature, quoi, qui est quelque chose de beaucoup trop éloigné de la réalité.
Vous pouvez préciser, ce serait quoi ce discours justement ?
Ah bah c'est en fait comment l'écologie, c'est très très concret et que ça me touche dans mon quotidien. C'est comment est-ce que en fait quand je vis dans une passoire thermique et qu'il y a une vague de chaleur, en fait je subis beaucoup plus que les autres, ou que quand il y a un risque de rupture d'approvisionnement électrique et que de même je suis dans une passoire thermique, c'est moi qui vais le plus subir et ne pas pouvoir payer mes factures, que c'est moi qui ai le moins accès à une alimentation saine et durable et qui du coup subit, qui ait le plus de risque d'être obèse ou d'être diabétique. C'est moi aussi qui vit dans les territoires les plus pollués et qui du coup subit le plus de maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. Donc on reconnecte en fait à ce que vivent les gens et à cette notion. Voilà, je cite Ferris Barkat qui était sur France 5 il y a pas longtemps, qui dit en fait c'est vraiment une question de dignité des gens, l'écologie, et donc c'est comme ça qu'il faut le poser, et c'est une question de droits fondamentaux. La crise écologique va atteindre à nos droits fondamentaux, et donc il faut absolument se battre coûte que coûte pour préserver les droits humains qui sont quand même notre héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale et qui sont a priori un petit peu mis en danger là avec tout ce qui se passe en France et en Europe.
Vous parliez d'espace militant et d'espace de parole. Est-ce qu'un espace militant, d'ailleurs, est forcément un espace de parole, ou est-ce que c'est deux moments différents, finalement ? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de s'épuiser dans du militantisme sans parole et sans lien ?
Alors, je pense que le risque, peut-être, il y a plusieurs trucs. Et évidemment que le mouvement en faveur de l'écologie doit aussi se remettre en question, parce que si aujourd'hui on perd, c'est qu'on n'a pas tout bien fait. Et donc, il y a des discours dans les espaces militants qui peuvent être excluants. Et donc, il faut interroger, absolument. Mais surtout aussi, le risque, c'est que peut-être ce que disait Hélène tout à l'heure sur le changement de valeur et d'identité, c'est d'être en rupture complète avec le reste de la société. Et du coup, de peut-être parfois se perdre aussi là-dedans et de perdre trop son identité. Ça peut, je pense, être assez violent pour les personnes. Donc du coup, il faut toujours faire ces allers-retours, moi, je pense, entre les mondes. Moi, pour vous dire, j'ai été scout pendant 12 ans, donc ça a beaucoup contribué à, je pense, ma sensibilité aux questions écologiques. J'ai aussi été en école de commerce à l'ESSEC, donc voilà, j'ai aussi été dans le monde capitaliste à fond. Et aujourd'hui, je suis dans des espaces écolos où j'essaye de naviguer les mondes et de créer du lien, en fait. Donc, oui, complètement. Et peut-être pour préciser sur les espaces militants, il y a des codes, en fait. Aujourd'hui, on essaie de déconstruire la manière dont, comme je vous disais, le patriarcat, le capitalisme, le racisme, etc. Parfois, on a l'impression qu'il faudrait avoir un bac plus 5 en sociologie pour être militant. Donc du coup, voilà, il y a vraiment un enjeu aussi d'ouvrir des espaces où les gens ne savent pas et peuvent venir et se sentir bien et construire leur réflexion sur un niveau peut-être un peu moins théorique.
Ne savent pas ou savent autre chose, quoi. Un savoir peut-être plus expérientiel, ou je sais pas comment dire, mais... Alors, on vous entend plus,
pardon.
Irène. Ouais.
Oui.
Je voulais relancer Hélène Jalin là-dessus, parce que je vous voyais réagir sur cette question de espace militant et lieu de parole.
De plus en plus, les espaces militants prévoient ces lieux de parole, ces groupes de parole, un peu de décharge émotionnelle, parce que c'est effectivement très lourd de porter le militantisme aujourd'hui. Enfin, comme le disait Irène, il y a maintenant des actions violentes. Moi, je sais que j'ai fait un groupe de parole pour débriefer des personnes qui étaient à Sainte-Soline et qui étaient pour la plupart complètement traumatisées par ce qui s'était passé. Moi-même, j'étais à Sainte-Soline, donc je peux complètement comprendre ce qui se passe. De plus en plus, on a des militants qui s'épuisent aussi à la tâche. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans 10 associations différentes, qui passaient 70 heures par semaine à travailler sur ces questions-là. Et en fait, tout l'enjeu là des psys qui viennent intervenir dans ce genre de milieu, c'est de dire aux militants que effectivement, il faut prendre soin de la planète, mais ça commence par prendre soin de soi. Et donc, les deux sont aussi importants. Et donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi pour pouvoir être en forme, suffisamment en forme pour aller mener les combats qui sont à mener. Donc, effectivement, c'est important.
Maxence Drosdeny, vous, comment vous prenez soin de vous? Est-ce que, au Scout et Guide de France, on a justement de quoi prendre soin de soi quand on accompagne, y compris sur ces questions-là d'écologie et d'éco-anxiété des plus jeunes?
C'est super dur de savoir quand lever le pied et quand se prendre du temps pour soi. C'est quelque chose qui est difficile et que moi-même, je réussis pas forcément tous les jours. Effectivement, on a charge de l'apprentissage de jeunes et on a envie de faire toujours plus pour eux. C'est vrai que je compte pas forcément les heures que je peux donner au scout à droite à gauche. Mais oui, on est quand même accompagné au travers de ça. Le système des scouts fonctionne de manière à ce que chaque personne au sein des scouts a forcément un référent vers qui se tourner en cas de besoin. Ne serait-ce qu'à l'échelle, moi je suis à l'échelon le plus simple, je suis auprès des jeunes, je suis auprès du terrain, mais je peux me tourner à l'échelon territorial vers un référent qui est dédié à ça, à l'échelon territorial, qui est dédié à ces questions d'écologie. Et si jamais j'ai pas mes réponses, il y a même à l'échelon national des personnes qui sont en charge de cet aspect écologie. Il y a toute une part un pan des Scouts et Guides de France qui est basé sur cette écologie. Donc oui, on est accompagné.
Depuis le début, ce que j'entends dans vos réponses sur les clés un peu pour faire face, pour vivre avec, comme on a dit, l'éco-anxiété, il y a beaucoup l'action et puis il y a le fait de pas rester seul. Et puis il y a un autre aspect qu'on a un peu effleuré tout à l'heure et peut-être qu'on va terminer dans le temps qui nous reste par ça, c'est la reconnexion au vivant et la notion d'émerveillement face à ce monde qu'on est en train de perdre et qu'en même temps on voudrait sauver. Je sais pas, qu'est-ce que vous nous diriez sur cette clé-là pour continuer d'avancer et comme, je ne sais pas si remède à l'éco-anxiété c'est la bonne manière de dire, mais Hélène Jalin.
C'est vrai qu'on est dans des sociétés qui sont désormais très très citadines. On est plus de 50% de personnes de la planète qui habitons dans des villes. Il y a vraiment une grosse déconnexion de la nature chez les générations les plus récentes, avec un lien qui est fait aussi avec les déficits attentionnels, puisque la nature, le lien à la nature a pour bénéfice de reconnecter les gens avec leur capacité attentionnelle, à renforcer leur capacité attentionnelle, et on peut faire le lien un peu avec les épidémies d'hyperactivité et de troubles attentionnels chez les enfants à l'heure actuelle. Et deuxième chose, sur le lien à la nature, il a été montré que les personnes qui avaient une plus grosse connexion à la nature, donc c'est quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui est mesuré par les psychologues, avaient davantage tendance à être, à être écolo et à s'engager comportementalement pour la préservation de l'écologie. Donc il y a vraiment un vrai, vrai enjeu de reconnecter les jeunes générations à la nature. Alors, il y a plein d'initiatives qui fourmillent en ce moment avec des écoles à l'extérieur, des écoles en forêt, etc. Et moi, je trouve qu'on devrait, au niveau des politiques publiques, encourager fortement ces mouvements-là.
En quelques mots sur cette même question, Maxence Drosdeny.
Je peux que plus soyez. C'est un des piliers scout, le retour à la nature. Alors c'est quelque chose dans lequel je me retrouve carrément. Oui, pour moi, on doit éduquer un maximum sur ce retour à la nature. Si on se rend pas compte de ce qu'on détruit, comment le protéger?
Irène Colonna, pour vous, peut-être aussi de manière très, qu'est-ce que ça vous fait, quoi, le contact avec le vivant?
Je pense que ça ramène une forme d'humilité. En fait, on discutait tout à l'heure de comment sortir de cet épuisement militant. Il faut prendre conscience qu'on n'est pas tout puissant et qu'on ne contrôle pas tout et que du coup on n'est pas au-dessus du vivant mais qu'on en fait partie. Et voilà, ça n'a pas de sens de se tuer à la tâche pour essayer de pas tous mourir. Enfin voilà, le paradoxe il est là et donc moi je pense que c'est développer une autre relation plus horizontale avec le vivant plutôt que de dire je suis au-dessus de tout ça et pas dedans.
Merci à tous les trois, merci aussi d'être venus nous donner un peu de d'espoir et d'envie de faire et de continuer dans ce contexte politique pas simple. C'était aussi une réponse et une forme d'analyse de ce qu'on est en train de traverser collectivement aujourd'hui en France. Melchior, vous continuez à parler d'éco-anxiété dans la deuxième heure.
Oui, éco-anxiété et puis plus généralement aussi l'engagement des scouts et guides de France pour la protection de la nature, notamment la protection des feux de forêt. C'est ce qu'on va voir avec des dispositifs qui sont mis en place ici et là en France et qui sont portés par des scouts depuis toujours ou des jeunes scouts. On va voir ça avec nos invités. Merci à tous les trois. Merci à l'équipe de Bordeaux qui vous a accueilli en studio. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages de scouts ou pas, bien sûr. Et puis sinon, dans le groupe Facebook, Je pense donc j'agis. À tout de suite.